la fréquence de la paix. Yo me say, oh la dame, monsieur, yaga yo. Blaze up the fire, could never stop at the wire. Yo me say, la paix ensemble, c'est possible maintenant. L'amour, le pardon, nous le devons à nos enfants. Nous allons effacer les erreurs du passé. Y'a tellement de bonnes choses à partager. La paix ensemble.
De la paix. Il est 7 heures. Le journal de 7 heures. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio de la Paix pour cette première session de l'information de ce jour. À la une de ce journal, élection sénatoriale après le scrutin du samedi dernier, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble selon les observations d'organisations de la société civile que nous écouterons en début d'édition. Et puis un atelier de consultation portant sur la modification et l'adoption des propositions des décrets de la loi portant code de l'environnement s'est tenu récemment à Grand Bassam. Le compte-rendu de notre reporter Mel Emmanuel Amani au cours de ce journal. Dans l'actualité sous-régionale, le Mali, le Burkina et le Niger ont signé ce week-end une alliance défensive. Et puis la revue des titres de vos journaux parus ce lundi 18 septembre sera l'affaire de Aoussi Poutin. Et puis en toute fin d'édition, le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan Cocody, invité de la rédaction, donnera sa lecture sur le phénomène du retour depuis 2020 des coups d'État militaires en Afrique de l'Ouest avec le dernier en date, celui du Niger, en juillet dernier, un entretien mené par Soro Adams. Bonjour à tous. Élection sénatoriale du 16 septembre 2023. OANEP Côte d'Ivoire, qui a déployé sur le terrain son mécanisme d'alerte précoce et sa plateforme dénommée la Coalition nationale des femmes dans tous les lieux de vote, salue une avancée démocratique et dit être satisfait des résultats puis de la bonne tenue du scrutin. Voici à ce sujet les explications de Marc-Ovi Kwame. Il est coordonnateur national de OANEP Côte d'Ivoire.
Il faut noter une bonne participation des grands électeurs, à savoir conseillers régionaux, conseillers municipaux et autres. Il faut noter aussi que dans l'ensemble, la situation socio-sécuritaire dans les différents chefs-lieux était stable. Il n'y a pas eu d'incidents majeurs qui ont été relevés. Et en termes d'impartialité, nos observateurs ont relevé aussi que tout s'est bien passé dans un esprit vraiment très démocratique. Il faut saluer aussi le fait que nous avons eu les résultats le même jour. C'est une avancée aussi pour notre démocratie. Il faut saluer la CEI pour cela. Et pour l'ensemble, nous pouvons dire que les résultats sont satisfaisants. Si nous devions faire un commentaire quant aux résultats, force est de constater une certaine hégémonie du parti au pouvoir, donc le RHDP, élu dans la majorité des régions, sauf trois qui sont revenus au PDCIRDA, laissant une nouvelle cartographie politique de la Côte d'Ivoire. L'incident relevé du côté de Toumoudi, assez isolé, ne peut pas remettre en question l'entièreté même du processus.
Nous écoutions Marc-Ovi Kwame, coordonnateur national de OANEP Côte d'Ivoire. Et c'est le même constat qui a été fait par le COSELCI. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble avec une participation très élevée. C'est ce qu'affirme donc le COSELCI qui a déployé 32 équipes et 2 personnes sur l'ensemble du territoire. Les précisions donc de Net Willy Alexandre, porte-parole du consortium de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire.
Le scrutin s'est déroulé dans un calme qui nous interpelle. Ça veut dire que nous avons la capacité, la possibilité d'organiser l'élection vraiment avec beaucoup de calme. Peut-être que c'est dû au fait que les électeurs, dans ce cas-ci, sont soit de grands électeurs, donc de conseillers municipaux et régionaux. Mais dans tous les cas, on a observé en tout cas une élection qui s'est déroulée dans le calme plat, avec vraiment une participation très élevée. Et c'est aussi pour nous une opportunité pour lancer une invitation à l'ensemble des acteurs politiques pour qu'ils continuent d'œuvrer pour que, à chaque fois qu'on aura à organiser l'élection, on s'attend non pas à des violences, mais plutôt à un climat apaisé. Nous avons déployé 32 équipes de 2 personnes sur toute l'étendue du territoire. Ici, nous avons fait une observation mobile, à la différence des élections régionales où on avait des électeurs aussi bien mobiles que des électeurs fixes dans les bureaux de vote. Lors du dépouillement, dans la localité de Moudi, c'est le seul incident que nous avons observé. C'est un incident qui, pour nous, est vraiment malheureux. Malheureux en ce sens que la démocratie n'a pas besoin de cela. Les élections en Côte d'Ivoire n'ont pas besoin de cela. Et donc, inviter l'ensemble des acteurs, des participants, des candidats à faire preuve de maturité en évitant de pousser leurs partisans ou leurs représentants dans les bureaux de vote à de tels actes qui sont à déplorer.
Vous écoutiez Net Willy Alexandre, porte-parole du consortium de la société civile pour les élections en Côte d'Ivoire, le COSELCI. Et du côté de la convention de la société civile ivoirienne, on ne dit pas le contraire. Tout s'est bien déroulé dans l'ensemble, ce qui dénote, selon le président du conseil d'administration de la CSI, la maturité de la démocratie ivoirienne. Nous écoutons donc Mahamadou Kouma.
Nous avons observé les élections dans les 31 régions et les 2 districts anciens du pays. Et on a beaucoup apprécié le déroulement des élections. Tout s'est passé convenablement, sauf que au niveau de l'affluence, elle s'est faite en dedans de si. Sinon, dans l'ensemble, nous pensons que ça a été un scrutin très apaisé. Et c'est le lieu même de féliciter la CEI pour ce maestriat. Et ça dénote pour nous la maturité de notre démocratie qui est en construction. À Toumoudi, il y a eu quelques malentendus. Je pense que ça a été plus ou moins circonscrit. À Cocody aussi, on a vu des électeurs arriver. Et le temps qu'ils arrivent au bureau de vote, c'était déjà 17h. J'étais témoin de ce petit incident, mais qui a été aussi vite circonscrit. Ils ont été sensibilisés, ils ont compris que, écoutez, il fallait respecter les règles. Donc ça, nous disons que dans l'ensemble, globalement, ça a été un scrutin apaisé.
C'était à l'instant le président du conseil d'administration de la convention de la société civile ivoirienne, CSI, Mamadou Kouma. Parlons environnement à présent. La modification et l'adoption des propositions des décrets de loi portant code de l'environnement, c'était l'objet d'un atelier de consultation à l'initiative de l'Agence nationale de l'environnement, ANDE. Pendant quelques jours, les parties prenantes se sont entretenues sur le contenu de ce projet de loi, mais l'Emmanuel y était pour le compte de Radio de la Paix, suivant son reportage.
Bon nombre de raisons motivent cette rencontre. Camus Atta, directeur de l'ANDE.
Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme adresse le problème des plans d'action de relocalisation. Or, il s'est trouvé justement qu'il n'y a pas longtemps, lorsque nous avons fait une revue du portefeuille des projets financés et cofinancés par la Banque mondiale, de manière unanime, il a été indiqué que le part qui est compris dans le plan de gestion environnementale et sociale devrait être validé par l'Agence nationale de l'environnement.
Les étapes de la mise en œuvre du PAR, plan d'action de réinstallation dans ce projet de loi, expliqué par Gisèle Doigt, sous-directrice de l'ANDE.
Le PAR que nous regardons à nouveau en termes de régulation, de coordination, de méthodologie nationale à mettre en œuvre au niveau de la Côte d'Ivoire.
D'autres mesures sont concernées par cet atelier de relecture de décrets.
Les notions qui sont liées à la violence basée sur le genre, aux abus sexuels, au travail des enfants que nous voulons voir désormais dans la mise en œuvre des évaluations environnementales et sociales en Côte d'Ivoire.
Pourquoi l'insertion du volet social ?
Par le passé, le volet social n'était pas vraiment renforcé dans la mise en pratique de ces outils. Nous voulons maintenant ramener ces aspects-là dans ces instruments pour que sur le terrain, on puisse les prendre en compte et que cela soit une effectivité en Côte d'Ivoire.
Cet atelier de relecture des décrets d'application de la loi portant code de l'environnement s'est tenu du 12 au 16 septembre 2023 à Grand Bassam.
Prenons la direction du centre ivoirien où dans la sous-préfecture de Sakassou, l'eau ne coule plus dans les robinets du village d'Aloko Djekro et ce depuis plus de 15 années. Et les difficultés d'approvisionnement en eau potable risquent de s'aggraver avec ce nouveau collège dont la localité vient de se doter. Le reportage à cet effet de Joseph Assalé, notre correspondant dans le Gbeke.
Ça fait plus de 15 ans que l'eau ne coule même pas dans les robinets. Nous avons la distance sur les cimes, il n'y a pas l'eau dans nos robinets. C'est depuis la crise de 2002 à 2010 qu'il y a eu l'interruption.
Les propos de Kona Kwame Guiroulan, président de la mutuelle des cadres du village d'Aloko Djekro, traduisent les difficultés d'approvisionnement des populations en eau potable. Confirmation d'une sage-femme.
On n'a pas l'eau, hein. On peut faire des semaines sans avoir de l'eau. C'est quand on gagne, on fait un peu. Ça pose problème si tu fais plus de 2 semaines sans avoir de l'eau pour une matinée.
Le centre de santé paye un lourd tribut de cette pénurie d'eau, selon l'agent d'hygiène.
On prend le vélo, on va au barrage pour aller prendre de l'eau pour nettoyer le centre. Quand il y a les blessés, même souvent, on a les problèmes d'eau pour laver les matériels.
Le seul forage dont dispose Aloko Diekro ne suffit pas à alimenter le village.
J'ai fait 8 ans ici, j'ai des problèmes d'eau. Notre leader qui était là, qui nous a envoyé un peu d'eau, il est décédé, ça crée des problèmes.
Il n'y a pas l'autre fois que ça ne veut pas venir. Donc, on pouvait ne pas creuser. J'en fais 3, 2 ne sont pas venus.
Nous avons un barrage même qui est appartement Tari. C'est là-bas que la population va pour faire la lessive, la vaisselle et autres.
Avec le nouveau collège de proximité dont bénéficie la localité, la situation risque d'être alarmante avec le personnel enseignant et administratif qui vont grossir la population.
L'école même qui vient d'être finie, il n'y a pas d'eau. Imaginons 3 mois, 6 mois après, sans eau, ça sera du gâchis. Je demande aux autorités de tout faire pour que la Soudessi puisse mettre l'eau dans nos tuyaux maintenant. Que, si possible aussi, construire des forages dans nos villages, ça résout beaucoup de problèmes.
Joseph Assalé, Sakassou, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sous-régionale, les régimes militaires du Mali, Burkina Faso et Niger ont signé samedi une charte établissant une alliance défensive, ont annoncé à Bamako, la capitale du Mali. Les délégations ministérielles des trois pays a appris hier dimanche l'agence France-Presse. Cette charte du Liptako-Gourma crée l'alliance des États du Sahel. AES a écrit sur X, anciennement Twitter. Le chef de l'agence du Mali, Assimi Goïta, son but est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle, a-t-il souligné. Et le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, d'ajouter que cette alliance sera une conjugaison des efforts militaires et économiques entre les trois pays. De retour à Abidjan et dans les studios de Radio de la Paix, nous retrouvons Aoussi Potin pour la revue des titres de ce lundi 18 septembre 2023. Bonjour Aoussi.
Bonjour à vous Linda, bonjour à toutes et à tous. Et rebelote, le RHDP, grand vainqueur donc des sénatoriales 2023. C'est l'info principale de l'actualité traitée par nos journaux parus ce jour. En effet, organisé dans 30 régions et dans les districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro ce samedi 16 septembre 2023, ces élections sénatoriales ont donné leurs résultats le même week-end avec la victoire écrasante du RHDP. Après donc des élections locales, le RHDP confirme sa suprématie, titre le quotidien L'Expression. Le RHDP a encore balayé tout sur son passage, seul maître à bord, écrit sur un ton triomphaliste Le Patriote qui accompagne son titre de une d'une carte de la Côte d'Ivoire toute orange, couleur dominante dans le logo du RHDP, avec deux petites taches, d'abord une verte pour le PDCI RDA et une blanche pour les indépendants. Une autre razzia électorale du RHDP qui conduit le quotidien lui a soulevé l'interrogation suivante: l'opposition peut-elle encore parler de fraude? Alors le quotidien c'est le quotidien le matin donc. Et de son côté, le tabloïd L'Avenir nous offre un titre de une qui a valeur, nous le pensons, de résumé général du parcours du RHDP dans tous les processus électoraux dans cette année 2023. Voici le titre: implantation, adhésion des populations, résultats électoraux, le PDCI réduit en vestige et le PPACI en relique, le RHDP seul maître du terrain politique. Et puis Linda, lors de ces élections sénatoriales, eh bien, il y a eu une grosse victime dans le camp du RHDP, en l'occurrence le président du Sénat Aoussou. Donc voici deux journaux qui parlent donc de cette défaite étonnante. L'intertitre sénatorial du 16 septembre 2023, voici ceux qui ont fait tomber Aoussou. Et puis notre voix de son côté, titre aussi sénatorial du 16 septembre 2023, le RHDP coule Aoussou. Terminons avec le Fraternité Matin concernant donc ce sénatorial. Fraternité Matin qui offre un titre tout sobre, loin de toute convergence. Il vous dit ceci donc, sénatorial 2023, voici les 64 électeurs sénateurs du moins élus. RHDP 56, PDCI RDA 6, sans étiquette 2, et puis la surprise du scrutin. Et de autres sujets avec le nouveau réveil qui lui parle donc du prix du riz, du stade et Bimpe, de la tentative de corruption à l'université, et sort le titre suivant: RHDP, scandale sur scandale, le peuple subit, voit mais pas écouté.
Merci à vous, Aoussi Potin, pour cette revue des titres. Dans l'édition de 8h, vous serez encore des nôtres pour le même exercice. Place à présent à l'invité de la rédaction et aujourd'hui il s'agit du professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody, observateur au quotidien de la scène sociopolitique africaine. Il pose son regard sur la multitude des coups d'État militaires enregistrés depuis 2020 en Afrique de l'Ouest, singulièrement dans les anciennes colonies françaises, avec le dernier en date, celui intervenu au Niger en fin juillet dernier. Le professeur Jean-Marie Kouakou, invité de la rédaction, donc donne sa lecture de ce phénomène, un entretien mené par Soro Adams.
Bonjour professeur Jean-Marie Kouakou.
Bonjour monsieur Soro.
Coup d'État au Mali, coup d'État au Burkina, coup d'État en Guinée, coup d'État au Niger. Pourquoi tant de coups d'État, selon vous, dans la sous-région?
Ben, je crois que déjà, vous faites bien d'insister sur la répétition. Vous avez aligné sous forme d'inventaire ces coups d'État. Mais je crois que la répétition, c'est toujours le début de la signification. Bon, pourquoi tant de coups d'État dans notre région particulièrement, et plus particulièrement en Afrique de l'Ouest? Je dirais précisément en Afrique francophone. L'Afrique de l'Ouest, il y a quand même des anglophones. Et le silence radio dans les États anglophones et beaucoup de bruit dans les États francophones. Ben, c'est la grande question à se poser. Et je crois que, évidemment, le fait que ce soit francophone incite à s'interroger d'abord sur la présence française, peut-être. L'Élysée ne s'est peut-être pas posé les bonnes questions. Il y a eu le coup d'État. Et chaque fois qu'il y a eu le coup d'État dans tous ces États, on a observé le même principe, les mêmes schémas. Le coup d'État est déclenché. On s'en prend d'abord à la diplomatie française, c'est-à-dire l'ambassade. Et derrière la diplomatie, on s'en prend au régime qui incarne cette diplomatie, donc la politique française. Donc la présence de la France en Afrique, du point de vue politique. La gestion de l'Afrique par la politique, par le régime politique français. D'abord le diplomatique, le politique, et aussitôt après, on s'en prend au militaire, présence de l'armée française. C'est toujours le même schéma qui s'est opéré et qu'on a observé dans tous ces trois pays, tout au moins dans les trois derniers pays.
Alors, quelle signification oui. Tout ça?
Ben, apparemment, toujours chaque fois que les coups d'État ont lieu, la version officielle, la première qui est déclenchée, en tout cas, c'est toujours la question du terrorisme. On dit que la présence française n'aide pas à la résolution terroriste et c'est pourquoi l'armée prend ses responsabilités pour remplacer un régime civil. C'est ce qui est toujours dit au départ. Mais au bout du compte, on se rend compte que ce qui est aussitôt après dénoncé, ce sont les accords avec la France, c'est la présence française elle-même qui est dénoncée. Donc, ça veut dire que, au bout du compte, aujourd'hui, on a peut-être une population, en tout cas dans les États francophones africains, qui est plutôt très différente, qui est complètement différente des gens de notre âge à nous, de notre génération, et qui est devenue de plus en plus nationaliste et souverainiste, et qui comprend de moins en moins la présence française, et d'ailleurs ce qu'on appelle derrière tout ça la France-Afrique. Et de plus en plus, ça devient un outil utilisé par les oppositions aux régimes en place. Voilà. Et donc, du coup, ça marche apparemment, puisque ça devient très populaire. Je dirais même populiste.
Alors donc, une population aujourd'hui jeune totalement différente de la population de nos générations. Expliquez à mon cousin d'Adjamé, simplement.
Oui, mais je voudrais dire simplement que il y a une époque où on a parlé de la France-Afrique depuis les années 60, en fait. C'est-à-dire il y a eu la période coloniale, il y a eu la décolonisation. La plupart des colons sont tous partis. Mais disons que la France coloniale est partie sans partir. Elle est restée en mettant en place des accords qui ont lié ces États avec elle. Les accords sont d'ordre militaire, c'est-à-dire présence française, base de base militaire française dans les États en question, et des accords au niveau monétaire et économique par la disposition du franc CFA et tout autre, par le dépôt de certains avoirs sur le trésor français. Enfin bref, il y a une série d'accords qui ont lié les deux parties. Depuis donc 1960, ces deux États-là, colons et colonisés, sont restés liés d'une certaine manière. Mais à l'époque, ça a été accepté par les populations africaines. D'ailleurs, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment, je dirais, de discours démocratique qui pouvait accéder à ces peuples. Et donc, la question a été relativement bien gérée par les régimes politiques en place, par les pouvoirs politiques en place. Aujourd'hui, il se trouve qu'on a les réseaux sociaux, on a des jeunes qui voyagent, on a la télévision, et tous ces jeunes-là comprennent aujourd'hui qui a un problème quelque part. Et ils dénoncent cela. Et les oppositions à ces régimes en place, qui sont encore jusqu'à présent restées liées à l'Élysée, ces oppositions ont compris le système et s'adressent directement à ces populations jeunes. Elles leur disent, voilà, votre pays est ainsi, vous ne pourrez jamais avoir accès à ceci, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela, parce que, voilà, donc ce discours-là passe. Et malheureusement, l'Élysée, aujourd'hui, n'a pas compris qu'il y avait problème. Et l'Élysée reste encore dans ses dispositions, elle continue à donner des ordres, et du coup, ça devient de moins en moins compréhensible, de moins en moins acceptable pour ces populations.
Et donc, une sorte d'échec de la politique française aujourd'hui.
Je pense que surtout, oui, en Afrique francophone, le discours ne passe plus. Le discours de la France-Afrique ne passe plus. Le système France-Afrique ne passe plus. Tout le monde, il passe de moins en moins. Et l'Élysée ne prend pas conscience de cela. Il donne encore des ordres de manière paternaliste et de manière autoritaire.
La France n'a rien compris en ce qui concerne les mutations du monde.
Exactement. Et surtout les mutations de l'Afrique. L'Afrique est en plein essor. Elle a une population qui est majoritairement jeune d'ailleurs, qui n'est pas du tout dans la relation ancienne avec la colonie. Oui.
Je vous remercie, professeur Jean-Marie Kouakou.
C'est moi qui vous remercie vraiment, monsieur Sauve.
C'était le professeur Jean-Marie Kouakou, professeur des universités à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, Cocody. Aujourd'hui invité de la rédaction, il était avec Soro Adams, un entretien qui met un terme à notre édition dont voici le rappel des titres. Élection sénatoriale après le scrutin du samedi dernier, tout s'est bien déroulé dans l'ensemble selon les observations d'organisations de la société civile, notamment le WANEP Côte d'Ivoire, le COSELSI et la convention de la société civile ivoirienne. Un atelier de consultation portant sur la modification et l'adoption des propositions des décrets de loi portant code de l'environnement s'est tenu récemment à Grand Bassam, a appris notre reporter Mel Emmanuel au cours de cette édition. Et enfin, dans l'actualité sous-régionale, le Mali, le Burkina et le Niger ont signé ce week-end une alliance défensive. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, 8h.
Radio de la paix, se parler, s'écouter, se comprendre.